Sud Radio, il est 19h.
Parlons vrai.
Les informations, c'est tout de suite.
Bonsoir à tous. Encore une journée de frappe de missiles entre l'Iran et Israël. Les deux puissances ont continué les hostilités la nuit dernière et toute cette journée de dimanche. Au moins 10 morts et 200 blessés sont recensés hier et aujourd'hui en Israël, selon les secours et la police. Et au moins 128 personnes ont été tuées et 900 blessés vendredi et samedi en Iran, selon des médias locaux. La France, de son côté, par l'intermédiaire de son chef de la diplomatie, Jean-Noël Barrot, a annoncé ne mobiliser aucun moyen militaire à ce stade sur place. Emmanuel Macron, lui, qui est actuellement en déplacement au Groenland, il est le premier chef d'État à s'y rendre depuis les menaces d'annexion de Donald Trump. Arrivé sur le territoire au statut indépendant, le président français est venu assurer son soutien de la part de la France et de l'Union européenne. Un territoire convoité pour ses matières premières, uranium, or, cuivre et pétrole notamment. 14 départements français toujours en vigilance orange aux orages violents ce soir. L'est du territoire est concerné avec une vigilance allant de l'Alsace au sud des Alpes en passant par la Savoie. Un épisode orageux qui a d'ailleurs fait une victime à Paris. Une femme gravement blessée après une chute de branche d'arbre ce vendredi soir a succombé à ses blessures. Le sport et une victoire française pour la 8e et dernière étape du critérium du Dauphiné. Aujourd'hui, Lenny Martinez s'est imposé en solitaire sur le plateau de Mont-Cenis. Tadej Pogacar remporte lui sans trembler son premier critérium du Dauphiné pour sa deuxième participation. À noter que Romain Bardet a fait sa dernière course en professionnel. Et enfin, les sports mécaniques et c'est Ferrari qui remporte les 24 heures du Mans édition 2025. Après deux victoires en 2023 et 2024, Ferrari s'impose de nouveau ce dimanche, grâce notamment à Robert Kubica. Longtemps en course pour un triplé, l'écurie italienne place trois voitures dans les quatre premières places. Et également de la Formule 1 ce soir avec le Grand Prix du Canada qui commence à 20h. Le Britannique George Russell avec Mercedes s'élancera en pole position. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Passez une excellente soirée. À notre écoute.
Sud Radio 7 Excellent, Judith Belair.
C'est dimanche, il est 19h et vous avez rendez-vous avec le meilleur de l'excellence française. Bienvenue dans 7 Excellent sur Sud Radio. Elle fait partie de ces voix qui marquent autant que les visages révélés très jeunes. Elle traverse le cinéma français avec une intensité qui ne faiblit pas. La comédienne Brigitte Fossé est avec vous ce soir. Brigitte, vous allez prêter votre voix justement pour la 29e édition du Festival de la Correspondance de Grignan du 30 au 5 juillet. Vous, ça sera le 2 juillet à 21h30 dans une plume sur le souffle de Dieu. Une mise en scène de Stéphanie Tesson. On va en parler évidemment. Bienvenue dans cet excellent Brigitte Tesson. Brigitte Fossé, on va y arriver.
Oui, bonjour, mais j'aime Stéphanie Tesson comme ma sœur, donc ça va
donc
très
ça
bien.
Va. C'est un auteur passionné d'histoire et de récits policiers, Jacques Forjas mêle avec brio, intrigue, reconstitution historique et suspense dans des romans où les époques prennent vie. Et ça marche vraiment, on s'y croit. En tout cas, ce fut pour mon cas, à moi. Avec Les Fantômes de Versailles qui est sorti chez Albin Michel, Jacques, vous nous plongez dans le Paris du XVIIe siècle, au cœur de la naissance de la police sous l'Ancien Régime. Bienvenue sur Sud Radio, Jacques Forjas.
Merci.
Avec plaisir. C'est excellent, chers toutes et tous. Bienvenue chez vous. Alors Brigitte Fossé, la 29e édition du Festival de la Correspondance de Grignan a lieu donc du 30 juin au 5 juillet. Elle est placée cette année sous la présidence d'Éric Emmanuel Schmitt autour du thème En quête de sens, c'est deux sacrés. Un sacré programme d'ailleurs. Et alors vous, ça sera, je le disais, le 2 juillet à 21h30, vous donnerez vie aux lettres d'Hildegarde de Bingen, qui est une figure exceptionnelle du 12e siècle, dans une plume sur le souffle de Dieu. C'est avec Claude Aufort et c'est une mise en scène de Stéphanie Tesson. Est-ce que vous voulez raconter un petit peu ce que c'est ? Vous voulez que je fasse le pitch pour nos auditeurs ?
Écoutez,
je vous laisse la parole.
Je dois vous dire que c'est une correspondance donc qui a été écrite par Beverly... Vous voyez Beverly, voyez son nom de famille, Beverly Charpentier.
Oui,
voilà.
Qui a été adapté donc.
Oui. Mmh. Et donc nous avons travaillé déjà tous les quatre ensemble autour de cette adaptation. On essaye de donner, si vous voulez, l'essentiel des préoccupations de cette dame, c'est-à-dire. Elle a un problème, c'est vraiment intéressant d'ailleurs, un problème important. Dois-je ou ne dois-je pas parler de mes visions ? Ouais. Depuis qu'elle est toute petite, elle a des visions depuis l'âge de 3 ans. Elle voit ce qu'elle appelle la lumière vivante, elle entend cette lumière vivante qui lui parle au travers de la réalité. Elle voit, elle a des images et elle sait que c'est Dieu qui lui parle et qui c'est comme si elle avait une conscience sur un écran géant à l'état pur, mais en même temps elle est dans un siècle de hiérarchie, donc elle doit obéir à ses supérieurs et elle a parfois des initiatives qui leur déplaisent et elle arrive à les convaincre que c'est Dieu qui lui a demandé de le faire, mais ce n'est pas facile parce qu'elle est très malade depuis qu'elle est toute petite. Elle est rachitique, elle a du mal à respirer.
Elle était très isolée aussi, hein, dès l'âge de 8 ans, c'est ça. Hein.
Voilà, mais comme elle était, on n'allait pas la marier parce qu'on voyait bien qu'elle était très attirée par l'autre monde, par le monde spirituel. Donc elle a été c'est une jeune femme pendant 10 ans dans un couvent qui elle était oblate, donc elle était enfermée. Mais elle vivait comme ça de
la transcendance, quoi.
De la transcendance et du contact avec cette femme qui l'a formée. Et quand ensuite on l'a mise dans un couvent avec une femme extraordinaire qu'elle suivait aveuglément et qui est morte, toutes les jeunes filles ont voté pour elle pour qu'elle devienne abbesse alors qu'elle ne le demandait pas du tout.
C'est un sacré destin. Alors, elle est donc née il y a 850 ans hein, dans l'ouest de l'Allemagne actuelle et c'est devenue une figure majeure du XIIe siècle. Hein. Abbesse, compositrice, mystique, philosophe, écrivaine, botaniste, physicienne.
Une médecin.
Femme, médecin aussi, voilà. C'est une femme qui avait une vraie influence, une vraie autorité, je veux dire presque exceptionnelle d'ailleurs pour une femme de son époque, malgré cette condition que vous nous racontez, Brigitte Fosset.
Oui, ce qui est inouï, c'est qu'on lui a pas appris à lire et à écrire. Elle a appris peu à peu au contact des personnes cultivées qui l'ont formée. Mais elle avait du mal à s'exprimer. Mais elle avait une vision très claire de ce qu'elle avait à faire. D'ailleurs, à la fin de chaque vision, elle entendait cri et écrit. Seulement, elle a lutté très longtemps contre le fait de dire ce qu'elle voyait, parce que elle avait peur de l'opinion des autres, et comme elle ne pouvait pas le raconter, sauf à Saint Bernard qui la comprenait, elle est tombée malade, elle devait enfouir
ça, la rongeait, ouais.
ce monde à la Jérôme Bosch, tout un univers qui était là, il fallait le partager. Et à partir du moment où elle l'a partagé, les choses se sont simplifiées, mais elle a toujours dû agir et écrire. C'est-à-dire qu'il ne suffisait pas d'écrire son œuvre. Elle en a écrit 5, je crois. Elle a écrit Esquivias, plus son recueil de correspondance.
Il y a 300 lettres hein, dans ce recueil.
Oui. Mais ces lettres étaient des aides, des mises en garde vis-à-vis des gens les plus importants. Aliénor d'Aquitaine, Barberousse, l'empereur, le pape, tout ça.
Impressionnant.
Mais parallèlement à ça, elle a quand même écrit toutes les théories et tous les fondements divins qu'elle a appris dans ses visions, et elle est maintenant considérée comme un docteur de l'Église, mais il a fallu quand même attendre Jean-Paul II pour qu'elle soit sanctifiée.
Ouais,
c'est quand même assez extraordinaire.
Ça met du temps.
Oui. Et alors, mais elle était très écoutée par tous.
Ah, c'est ça, c'est ce que je voulais vous dire.
Et très respectée.
Ouais. C'était une voix rare au Moyen-Âge, Hildegarde. Et alors, nous raconter ça en tant que femme, c'est un engagement pour vous aussi, parce que c'est une femme qui a été, pas invisibilisée, mais c'était pas forcément très simple pour une femme de s'exprimer à cette époque-là, quoi.
Je pense qu'à partir du moment où elle était guidée par ses visions et ses convictions, c'était simple de s'exprimer, mais ce qui était difficile, c'était d'avouer cela, parce que en fait on aurait pu ne pas la croire, se moquer d'elle. Il y avait quand même beaucoup de jalousie aussi de la part des autres abbesses. Il y a par exemple dans la lecture que nous allons faire avec Claude Aufort, qui joue Volmar, son conseiller, son ami,
celui qui
l'aide à écrire et à formuler, qui corrige ses fautes d'orthographe et ses fautes d'allemand. Eh bien, il lui lit des lettres où il y a vraiment des gens qui sont d'une jalousie incroyable et d'une hypocrisie incroyable avec elle. Et elle ne se laisse pas faire. Elle ne se laisse pas faire. Par exemple, à un moment donné, elle offre l'hospitalité dans son cimetière à un homme qui a été excommunié. Alors, ses supérieurs lui interdisent de chanter à la messe. Or, le chant, la musique, sa musicalité, sa créativité musicale, ça fait partie de son état de grâce et de sa manière de célébrer Dieu et de célébrer la vie. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant dans sa première vision, c'est que la voix lui dit, je suis la vie, je suis la force de feu, et je suis Dieu en même temps.
Oui. C'est beaucoup.
Et ça veut dire que pour elle, tout est dans tout, que les forces universelles.
Elle est presque spinoziste.
C'est exactement ce que j'ai pensé.
Voilà. C'est impressionnant. Dieu, c'est la nature.
J'ai toujours adoré Spinoza, et quand j'ai fait philo, et là, dans Hildegard, je retrouve ça, mais avec une certaine humilité, parce qu'elle raconte le film qui se déroule devant ses yeux, et elle y croit complètement, elle est dedans, et après, elle essaye de vivre en fonction de ça.
Très intéressant. Jacques Forgès, ça serait peut-être un personnage de roman incroyable à écrire. Est-ce que ça vous inspire tout ça? Vous la connaissiez déjà, hein?
Oui, je connaissais ce personnage, qui est quand même un personnage connu au Moyen-Âge. Et puis, sans attendre, c'est Jean-Paul II, vous avez dit tout à l'heure. Elle avait quand même une certaine aura pour les gens qui s'intéressent un peu à la religion, tout de même. Et puis, ses visions... Et encore une fois, c'est quelqu'un qui est diminué. Mmh. C'est pas la première qui a accès à un raccourci avec Dieu, ce qu'on appelle les visions. Il y en a eu d'autres qui étaient des enfants malades, qui sont devenus religieuses, et à Lisieux, par exemple. Et c'est pas un hasard si Dieu s'intéresse à eux d'abord. Mmh. Et s'ils ont une communication privilégiée avec lui. Donc elle, c'est sûr que c'est un personnage, je dirais connu, très riche, passionnant, et qui doit passionner tout le monde. Mmh. Et en plus, elle est très actuelle.
Alors ce qui est très intéressant aussi, c'est que c'était à la fois une figure spirituelle et une femme très engagée finalement, Brigitte Fosset.
Elle était engagée dans la mesure où elle prenait ses responsabilités. Elle se sentait investie d'une responsabilité. La seule responsabilité qui lui coûtait vraiment, c'était d'écrire ce qu'elle voyait.
Bien sûr.
Parce que ça lui posait vraiment un problème. C'était une douleur, c'était presque tragique. C'était la contradiction qui souffre. Mmh. Il fallait raconter, il fallait construire. Mais pendant ce temps-là, elle ne pouvait pas soigner. Pendant ce temps-là, elle ne pouvait pas accueillir.
Et il faut elle était partagée entre toutes ses envies, en fait, de transmission, quoi. Hein, c'est ça.
Elle le faisait pour la transmission, oui, et aussi parce qu'on lui demandait de le faire. On disait toujours après chaque vision, crie et écrit. Crie, ça veut dire assume.
C'est ce qu'elle entendait, en fait, hein, c'est ça.
Elle avait la vision et en même temps, elle entendait la voix.
Ouais.
Mais ce qui est extraordinaire, c'est de se dire que c'était une femme comme les autres, c'est-à-dire qu'elle avait accès à tous les gens les plus simples, elle soignait les bobos, elle soignait les blessures, elle a fait énormément de guérisons invraisemblables, inattendues. On appelait ça des miracles, mais effectivement, il y a eu
un peu de savoir-faire quand même dans tout ça, non?
Bien sûr, ouais. Il y avait des potions,
c'était une érudite, quoi.
Oui, elle connaissait les plantes comme personne, et ça c'est très 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 actuel, elle était écolo comme pas deux.
Mais c'est une figure écolo, vous nous le disiez en antenne, ça, tout à l'heure.
Mais en même temps, c'était doublé d'un mysticisme et d'une croyance incroyable. Mais ça ressemblait énormément à ce que faisait le Christ, en fait. Parce que quand le Christ soignait les gens, il priait le Père pour qu'il les guérisse. Mais en même temps, il leur disait, lève-toi et marche. C'est-à-dire que c'était à la fois de l'ordre du corps et de l'ordre de l'esprit.
Magnifique. C'est excellent sur Sud Radio et on va vous retrouver dans quelques instants avec la comédienne Brigitte Fosset et le romancier Jacques Forgès. Vous restez avec nous sur Toi tout de suite.
Sud Radio.
Sud Radio. Parlons vrai.
Parlons vrai.
Sud Radio.
Parlons vrai. 16 millions, c'est l'équivalent de la population de Paris, Bordeaux et Lyon réunis. C'est aussi le nombre de personnes dans le monde qui ont choisi Renault Clio depuis 1990. Et ce nombre continue d'augmenter, puisque Clio est la voiture la plus vendue en France en 2024. Renault Clio Génération est en édition limitée dès 16 900 €. Portes ouvertes du 12 au 16 juin.
Source Renault, immatriculation mondiale de 1990 à 2024. Source 3 à data janvier 2025. Clio Génération SCE 65 heures option. Offre à particulier du 1er au 30 juin selon stock disponible. Voir Renault.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Écoutez Sud Radio Strasbourg en DAB+.
Sud Radio.
Sud Radio, c'est excellent. Judith Belair.
Chaque dimanche à 19h sur Sud Radio, c'est excellent. Vous ouvre ses portes pour vous ce soir. La comédienne Brigitte Fosset qui prête sa voix pour la 29e édition du Festival de la Correspondance de Grignan. Ça sera du 30 juin au 5 juillet. Et puis on est aussi avec Jacques Forjas qui est auteur passionné d'histoire et de romans policiers. Son dernier livre, Les Fantômes de Versailles, s'est sorti chez Albin Michel. Alors Jacques, un petit pitch quand même. Ça se passe en 1673. C'est oui. À Paris. C'est un lieutenant général de police qui s'appelle Larénie, hein, qu'on connaît, qui lance une enquête autour d'une série de meurtres mystérieux. Et en fait, ça marque les débuts de la police moderne. Est-ce que ça vous va comme résumé ?
Oui, c'est bien. On peut voilà. S'arrêter là.
Vous voulez ajouter
parfait.
Autre chose ou pas ?
Non. Non, ce qui m'a intéressé, c'est que Larénie est le premier dans l'histoire de la police, et en France, le premier lieutenant général de police. Avant lui, il n'y en avait pas. Et après, il y a eu Sartine, sur Louis XV, etc. et tout. Donc, c'est quelqu'un qui a été proposé par Colbert à Louis XIV et qui a assumé sa mission au Châtelet et qui a construit toute la police qui existe aujourd'hui. Alors, évidemment, on voit les racines.
Avec quelques nuances.
Oui, avec quelques nuances. Mais si vous voulez, cette vision-là de ce que doit être une police, entre guillemets, indépendante et efficace, voit le jour à ce moment-là. Voilà, ça m'a intéressé.
Alors sa figure à lui, elle est quand même assez passionnante et fascinante aussi, c'est un pionnier en fait. C'est lui qui met en place les premières techniques.
Parce que Louis XIV, bon, on sait pourquoi il n'aimait pas Paris, c'est que évidemment il y a eu la fronde et il a fallu qu'il quitte Paris
il était traumatisé,
dans la précipitation, donc il a été traumatisé. Et Paris est une ville qui, à l'époque, est la ville la plus peuplée d'Europe.
Il y a 600... plus sale aussi, a priori.
Et la plus puante. Ouais. Il y a 600 000 habitants. C'est immense. Il n'y a pas de trottoir, il n'y a pas de rue, il n'y a pas de lumière. Ça sent atrocement mauvais. Tout le monde balance
les excréments par
les fenêtres. Enfin, c'est invivable. Les étrangers qui viennent à Paris, comme les Anglais, n'ont qu'une envie, c'est de fuir.
Ouais.
Et c'est un coupe-gorge. Donc, Louis XIV a beau ne pas trop aimer Paris, il se décide quand même à mettre tout ça au clair et à reconstruire Paris. On fera tomber toutes les ceintures de Paris et puis on va surtout s'appliquer à mettre de la lumière qui deviendra la ville lumière.
C'est un premier petit Haussmann, en fait.
Absolument. Ouais. L'Araignée a un projet et pense que la sécurité passe par la lumière. Donc, il va falloir mettre des lanternes. Il a un projet de 6000 lanternes dans Paris. Et on va éclairer les nuits parisiennes. On va mettre des patrouilles la nuit qui circulent, etc. Donc, on va commencer à... Ça, c'est une de ses premières tâches. Mais il en a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres. Parce que le XVIIe siècle, qui est un siècle absolument passionnant, parce que c'est la confluence de toutes les religions... Faut pas oublier la révocation de l'édit de Nantes.
C'est vrai.
Les oppositions entre les catholiques et les protestants. Faut pas oublier les jansénistes, Port-Royal. Et là, en force, avec des gens comme Racine qui portent la voix des jansénistes. Il y a les jésuites qui sont omniprésents à Versailles. Et qui mettent en place des systèmes d'éducation, qui sont conseillers du roi, qui ont une vision sur l'Orient, etc. et tout. Donc, ce sont des visionnaires de ce côté-là. Il y aura aussi les quiétistes, qui sont soutenus par Fénelon. Donc, il y a ce monde-là. Et puis, de l'autre côté, c'est le deuxième phare du XVIIe siècle, c'est le théâtre.
Bien sûr.
Et d'un seul coup, ils sont tous là. Il y a Racine, il y a Molière, il y a Corneille, il y a Rotrou. Racine qui est le cousin de La Fontaine.
Ah, vous nous apprenez quelque chose.
Non, mais on l'oublie
c'est
souvent.
Vrai qu'on
on
le dit
souvent.
Peu. On le
c'était
dit peu.
Son cousin.
D'accord.
Et ils étaient un peu lointains, mais
oui,
ils se connaissaient. Ils s'appelaient mon cousin.
C'est drôle.
Bon, voilà.
Bon.
Donc c'est ce siècle-là où il y a le siècle du théâtre et le siècle des religions tout à l'heure. On a évoqué les visions et de l'écriture et du cri et de l'écrit. Mais celui qui a été un maître en la matière, c'est Pascal et son mémorial.
Oh, quelle merveille.
Parce que lui, non seulement il est là-dedans, mais il est dans l'urgence. C'est-à-dire qu'il s'aperçoit qu'entre le cri et l'écrit, il y a de la tiédeur.
Eh ben voilà, cri et écrit, hein.
Il y a de la tiédeur entre les deux. Parce qu'on passe à la matière.
Ouais, bien sûr.
Et d'un seul coup, le feu, si vous voulez, qui permet de fabriquer beaucoup d'objets et des outils, mais devient matière. Et là, d'un seul coup, il se refroidit. Et vous vous souvenez du mémorial, hein, feu, etc. et tout. C'est que lui, il comprend que si l'écriture n'est pas immédiate et si elle n'est pas dans le cri lui-même, elle perd de l'intensité.
C'est vrai.
Voilà, c'est Pascal.
Et alors, il y a un autre truc qui m'intéresse beaucoup, c'est Emilio, qui est ce jeune artiste qui met en lumière l'importance de la représentation visuelle dans l'enquête.
Oui.
Alors, c'est passionnant parce qu'on y apprend notamment l'usage de la peinture avant les photos, évidemment, oui, pour représenter les scènes de crime, etc. Il se servait des peintres.
Oui, absolument, parce que ce peintre quitte l'Italie parce qu'il en a marre de l'Italie, pensant que, de toute façon, pour... rattraper les maîtres qui sont devant lui, il n'y arrivera jamais. Et puis, il perçoit aussi que dans les Flandres se passe une peinture qui l'intéresse. C'est la peinture du quotidien.
Mmh.
On arrête les anges, les apparitions, mmh, les annonciations, les etc. et tout. Donc, la peinture du quotidien, celle de Vermeer et des autres,
oui,
une paire de pantoufles dans un coin, etc. et tout. Je dirais que ça le branche, quoi. Donc, mmh, il y va. Mais il s'arrête à Paris. Parce que la route est longue.
Mmh.
Et à Paris, où la peinture est pas très, très développé. Franchement, il y a l'Italie, l'Espagne, bon, il y en a d'autres, hein. Georges de la Tour, c'est quand même un immense peintre,
mmh,
mais il a envie de quitter tout ça. Et alors, en Italie, les jeunes artistes pouvaient aller dans les morgues, qu'on appelle aussi mornes, pour dessiner les cadavres.
Mmh.
Et il va au Châtelet, parce qu'en dessous du Châtelet, il y avait c'est là où on faisait les autopsies.
D'accord.
Et les corps qui n'étaient pas réclamés restaient un certain temps dans le sel, la morne. Et lui, il a eu l'autorisation de venir par des inspecteurs de police pour dessiner les corps. Puis il a le talent de les transformer. C'est-à-dire que les blessures n'apparaissent pas, et les corps sont dans une beauté encore. Et un jour, l'araignée descend, et il dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Alors il dit, je dessine les corps, les visages, etc. et tout. Mais il dit, dehors, pour dessiner un corps, il faut avoir l'autorisation. Alors comme ils sont morts, ils peuvent pas l'avoir, l'autorisation. Alors il demande ses croquis tout de même. Puis il regarde ses croquis, puis il trouve que on est quand même dans la ressemblance. Et que des visages comme ça, si on savait les montrer à des témoins, à des voisins, à des gens qui passaient dans la rue au moment où la personne a été tuée, on pourrait peut-être s'en servir. Et ça commence par le portrait robot.
C'est incroyable.
Hein?
Brigitte Fosset, vous qui êtes comédienne, hein, si on vous proposait un rôle dans l'univers de Jacques Forgès au cœur du grand siècle à la cour de Louis XIV, j'ai envie de vous demander quel personnage, par exemple une courtisane, une espionne, une femme savante, vous auriez envie de jouer quoi?
Moi, je rêve d'interpréter la femme de monsieur. C'est-à-dire la belle-sœur de Louis XIV, qui allait à la chasse 4 heures par jour avec lui, et qui est de la Palatine, donc,
oui,
et qui a écrit des lettres absolument extraordinaires sur sa vie, pour connaître vraiment la vie à la cour, avec un œil très caustique, très gourmand, très intelligent. Elle était folle de théâtre, elle allait au théâtre tous les jours. Et en même temps, elle a souffert le martyr, mais comme elle adorait Louis XIV, elle pouvait pas lui dire qu'au moment où il a écrasé le Palatinat, c'était son père, le Palatinat. Elle était dans une situation tragique, mais son amour de la vie a toujours dépassé le fait qu'elle avait, par exemple, un mari qui était complètement homosexuel.
Oui, qui s'intéressait absolument pas à elle, d'ailleurs.
Oui. Mais quelle ressource culturelle,
quel
amour
siècle
de la vie, quelle drôlerie. D'ailleurs, j'espère faire un spectacle là-dessus, parce que j'ai un ami qui s'appelle Bruno Villien, qui a écrit une pièce sur elle que j'ai joué une fois et j'aimerais beaucoup le rejouer. C'est une manière formidable de faire connaître les habitudes du 17e.
Bien sûr. Alors justement, sur ces habitudes, vous nous avez dit quelques mots sur Paris, mais ce qui est intéressant aussi, c'est que nous, on a toujours une vision romanesque d'un Paris avec des fastes, etc. Mais en fait, c'était pas du tout ça.
Et
l'époque elle-même, même à Versailles ensuite, c'était pas si fastueux que ça. Hein. C'était pas si simple que ça non plus, d'ailleurs.
Oui, moi, ça m'a intéressé parce que la police va faire un va-et-vient entre Versailles et Paris. Paris, c'est la ville, j'ai envie de dire, de l'ombre, de l'obscurité, du travail, de la misère. Faut pas oublier qu'il y a à peu près 50 000 mendiants dans les rues à Paris à l'époque. Vous vous rendez compte, 50 000, avec des hordes d'enfants qui dorment dans la rue, qui sont 10, 15 et qui circulent en bande pour survivre. C'est-à-dire que le matin, ils savent pas s'ils seront encore vivants le soir. Et qui ont subi des sévices incroyables. Puis de l'autre côté, le deuxième pôle magnétique, c'est Versailles, qui est un lustre allumé toute la journée. C'est-à-dire que là, il y a une ville lumière, où là, il y a quand même...
Ils jetaient les pots de chambre par la fenêtre aussi à Versailles.
Un peu aussi, ils avaient même oublié de construire des cabinets pour les gens.
Voilà.
Et puis, c'était la fête permanente. Mmh. Donc, il y avait une insouciance totale. Il y avait une mise au pas de la noblesse, bien voulue par Louis XIV. Et entre-temps, on sent déjà dans Paris le vent de la révolte. C'est-à-dire que la misère est trop grande, il y a trop grande différence entre ceux qui dépensent des fortunes sur les tables à Versailles et ceux qui dans la rue dans la mangent réalité. Des pierres. Quoi.
Ouais, c'est ça.
Et qui travaillent 17-18 heures par jour et qui n'arrivent à rien. Mmh. Et Ariane Mouchkine, vous vous souvenez, elle avait fait un film il y a longtemps sur Molière, où on voyait dans les campagnes françaises l'extrême misère des gens. Et ça, j'ai voulu le mettre parce que il faut pas croire que, bon, Versailles, oui, sans doute, c'est une splendeur, mais à côté, il y a Paris et toute la France qui est plongée dans une grande misère.
Oui. Et cette cour de Louis XIV, qui était quand même connue pour ses intrigues, ses secrets, etc., c'est un choix de décor idéal pour un roman policier, hein, c'est un peu ça, c'est un peu pour ça que vous l'avez. Ou c'est une époque qui vous passionne, ou c'est juste...
Ah oui, non, c'est une passion, enfin, ouais. Sur le plan artistique, c'est d'une richesse incroyable, on en parlait tout à l'heure, mais ouais. On peut parler de La Rochefoucauld, on ouais. peut parler de Fénelon, on parle de Pascal.
Mais pour revenir justement à ces bruits de cour, à toutes ces intrigues qu'il y avait, etc., c'est un terrain idéal pour vous,
c'est un terrain idéal et en même temps, le secret participe aussi de l'art de la conversation. Mm. C'est-à-dire qu'il y a une aristocratie dans le langage à Versailles qui pousse jusqu'à l'extrême. Les précieuses ridicules de Molière, c'est pas un hasard. Mm. Mais si vous voulez, il y a un soin dans la langue participant à l'idée que l'esprit est au niveau de l'expression. Mmh. Quoi. C'est-à-dire que si on pense bien, on parle bien, on s'applique. Et puis, quand on voit les conversations qu'ils ont entre eux, ils s'écoutent. Alors qu'aujourd'hui, tout le monde parle, mais personne n'a des oreilles.
Ouais. C'est ça.
Et là, à l'époque, on sent les allers-retours qui sont passionnants. Quoi.
Très intéressant, tout ça, c'est excellent, j'ai envie de dire. La comédienne Brigitte Fosset et le romancier Jacques Forjas sont avec vous sur Sud Radio. Vous restez à l'écoute, chers auditeurs. À tout de suite.
Sud Radio.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Parlons vrai.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Quand votre déodorant à l'agonie vous dit dans un dernier soupir:
je fais de mon mieux, mais je suis vraiment sur la faim.
Pas de panique, votre nouveau déodorant est déjà en route. Il arrive demain avec Prime. Produit du quotidien, livré en un clin d'œil, c'est sur Prime. Sous réserve du respect des heures limites de commande.
Écoutez Sud Radio Nantes en DAB+.
Sud Radio.
Tout savoir sur
Total Energy mise sur la production et la distribution de SAF ou carburant d'aviation durable pour aider à décarboner le transport aérien. On vous en dit plus dans un instant.
Sud Radio 7 Excellent, Judith Belair.
Merci de votre fidélité à Sud Radio chaque dimanche à 19h. C'est excellent, l'émission qui crée le lien. Vous êtes aujourd'hui en compagnie de la grande actrice Brigitte Fosset, une des voix du 29e Festival de la Correspondance de Grignan. Ça sera du 30 juin au 5 juillet. Et puis l'auteur Jacques Forjas avec son nouveau thriller Les Fantômes de Versailles chez Albin Michel. Alors Brigitte Fosset, je voudrais qu'on écoute des petites choses quand même. Mais avant cela, vous m'avez confié que vous avez participé à la première édition du Festival de Grignan et que c'était pour avec Georges Sand, hein, des lettres de Georges Sand, et donc c'est pour vous très émouvant en fait de vous retrouver à nouveau sur scène à ce festival.
Oui, c'est très émouvant parce que ça a été le point de départ. Grâce à Grignan, je suis tombée amoureuse des correspondances et j'ai commencé à travailler avec des musiciens autour de la littérature à partir essentiellement des correspondances grâce à Grignan. Et ça me touche énormément, je leur dois beaucoup, parce que juste après ce Georges Sand, où j'avais moi-même un stylet du Chopin, je suis allée à Nohant, et là j'ai pas cessé de travailler au Festival de Nohant.
Alors il faut dire pour aux auditeurs, qui était Chopin pour Georges Sand quand même, s'ils ne le savent pas forcément.
Oui, alors Georges Sand était très amoureuse de Chopin, la première fois qu'elle l'a vu, elle lui a écrit un petit mot, « On vous adore ». Et la première fois qu'elle a dîné avec lui et Franz Liszt, pour une fois, elle a mis une robe blanche. Mmh. Alors petit à petit, il est tombé amoureux d'elle. Et puis elle l'a emmené à Nohant. Et 6 mois sur 12, il écrivait à Nohant. Et 6 mois sur 12, ils étaient à Paris. Et là, il donnait des leçons. Magnifique. Et puis il est tombé très malade. Et puis il est parti. Il a quitté Georges Sand parce qu'il a été choqué par la manière dont elle traitait sa fille. Mmh. En fait, sa fille était absolument infernale. Elle vivait avec un sculpteur épouvantable, très intéressé, et qui, à un moment donné, a voulu tuer Georges Sand. Ah. Ça s'est très mal terminé.
En tout cas, j'ai envie de dire, c'est un beau rendez-vous que ce festival de Grignan pour vous, 29 ans après, quoi.
Mais c'est merveilleux. Et puis de voir aussi que ils ont choisi quand même un sujet qui me tient à cœur, et qui tient à cœur de beaucoup de gens et qui n'est pas très souvent traité, puisque la direction d'Éric Emmanuel Schmitt a souhaité cette année que ça s'appelle Enquête de sens et de sacré. Il est vrai que en ce moment
ça peut nous faire du bien.
Ça peut nous faire du bien. Il y a une rencontre avec Sylvain Tesson. Il y a une rencontre justement avec Pierre Assouline et Éric Emmanuel Schmitt et un
très beau programme
et un auteur musulman qui se demande pourquoi on peut pas vivre dans l'amitié des trois religions, surtout dans un pays laïque. Moi, je trouve c'est vraiment très très intéressant.
Bon, allez, on vous écoute un petit peu quand même sur Sud Radio, deux petits extraits, Brigitte Fossé.
Michel,
pourquoi viens la chercher maintenant?
Mais pourquoi?
Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe?
Parce que c'est vraiment minable. Il n'y a que des seins qui aiment une bande de petits mecs. Pas possible. Ah bon? Si vous êtes couché. Dans une demi-heure en bas. Ok. Allô? Et après, on ira à la boum d'Antoine et prendre un verre à la main jaune.
Deux extraits de films cultes avec vous, Brigitte Fossé. Votre tout premier, hein, Je vous interdis, il fallait quand même que j'en parle, parce que moi, c'est un film qui m'a énormément touchée, qui est sorti en 1952, un film de René Clément. Puis deuxième, évidemment, La Boum de Claude Pinotot en 1980. Alors, en fait, à seulement 5 ans, pour ceux qui vous découvrent, hein, vous avez bouleversé le monde entier dans ce rôle de Paulette. Hein, vous étiez une toute petite fille. C'est un film culte qui a été Lion d'Or à la Mostra de Venise en 1952 et qui parle de la douleur silencieuse de l'enfance en temps de guerre, des orphelins, etc. Vous y incarnez déjà à 5 ans une intensité rare qui m'a marqué, moi, petite fille, hein, je vous le dis sincèrement. Voilà, moi j'avais envie de savoir si c'est un tournage dont vous vous souvenez, comment ça vous a marqué et comment vous avez fait à cet âge-là pour rayonner de cette manière.
Mon père était professeur d'anglais et d'allemand, il adorait le théâtre, le cinéma. Ma mère voulait être chanteuse d'opéra, donc à la maison c'était... la fantaisie, le théâtre, le chant, la danse, tout le temps. Et quand mon père est parti à l'école, moi j'ai voulu étudier, donc j'ai demandé à un prof particulier à l'âge de 3 ans. À 5 ans, je lisais, j'écrivais. Et quand j'ai rencontré René Clément, parce que mon père était cinéphile, et donc il avait vu la bataille du rail, et quand on a vu que René Clément cherchait une petite fille de 9 à 11 ans, j'en avais 5, il a dit « Ah, mais la bataille du rail, c'est très 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 bien ». Donc, ma mère et ma tante ont fait un pari, elles m'ont présenté à René Clément, et René Clément a voulu me prendre, parce que les petites filles de 12 ans étaient déjà intimidées, tandis que moi, j'étais totalement
inconsciente. Vous étiez très très à l'aise,
exactement, c'est très étonnant
d'ailleurs.
Et donc, il m'a demandé de jouer une scène, normalement, et une en pleurant, et une en riant, mais j'avais l'habitude de vivre comme ça, on vivait comme ça à la maison, c'était
C'est très impressionnant parce que vous êtes effectivement tellement à l'aise et puis tellement touchante, quoi. Et ça m'a fait pleurer.
Et moi, je dois dire que c'était très intéressant parce que Georges Pujoli, il avait quand même 5 ans de plus que moi, donc j'étais en admiration devant lui et c'était exactement le contraire de ce qui se passe dans le film. Dans le film, Georges Pujoli, il veut faire tout ce que je veux. C'est une espèce de Lady Macbeth qui n'en a jamais assez de croix, jamais assez d'animaux morts. Enfin, c'est terrible. C'est une vraie Lady Macbeth. Elle est traumatisée complètement. Et lui, il fait tout pour la rendre heureuse.
La vie, c'était pas ça.
C'était pas ça. Elle voulait même pas jouer à cache-cache avec moi.
Bon, et puis La Boum, hein, ça, je vous interdis comme La Boum. Alors, deux styles très différents, évidemment, mais ça traverse les générations. Voilà, vous avez fait des films qui marquent le temps, vous le savez ça.
Ouais, j'adore La Boum, j'adore Claude Pinotot. J'étais très amie avec Claude Brasseur. On avait le même prof, on avait un coach américain qui s'appelait Andreas Boutchinas, avec qui on travaillait en atelier quand on travaillait pas. Donc on se connaissait très 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 bien. Et Pinotot était un amour de compréhension. Et puis Sophie.
Oui, Sophie Marceau.
Une explosion de naturel sur ce plateau à l'âge de 13 ans. Elle se comportait vraiment déjà sans le savoir.
Comme une star.
Elle disait, ce mot-là, je le sens pas très bien, est-ce que je peux en dire un autre? Et Pinotot l'écoutait, mais avec une espèce de ferveur. C'était magnifique de les voir ensemble. Vraiment magnifique.
Jacques Forgès, marquer l'histoire du cinéma français, bah, c'est ce qu'a fait Brigitte Fossé. Vous, écrire avec passion notre histoire, c'est ce que vous faites. Qu'est-ce qui fait, selon vous, qu'un destin devient romanesque et qui mérite d'entrer en littérature, j'ai envie de dire?
Faut y ajouter l'imagination. C'est-à-dire que, vous voyez, dans le livre que j'ai fait, j'ai pas voulu faire une reconstitution historique. Les romans policiers historiques, pour moi, ils ont de l'intérêt s'ils ont un effet miroir avec aujourd'hui. Faut y retrouver des thèmes que l'on retrouve dans notre société. Ouais. Parce que sinon, ça devient empesé, ça devient miteux. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? On est trop loin de tout ça.
Donc, si ça résonne chez nous aujourd'hui, c'est intéressant, c'est bon. Et vous pouvez vous y
appliquer. Pour moi, oui. Pour moi, c'est intéressant. Faut électrifier un petit peu la période. Ouais.
Et alors, vous qui interrogez quand même souvent la mémoire dans vos romans, qu'est-ce que l'histoire oublie trop souvent selon vous?
J'étais prof de lettres au départ avant de faire.
Avant d'être scénariste et auteur.
Ouais. Mais l'histoire, moi, telle que je l'ai découverte là sous le siècle de Louis XIV, on ne regarde que les événements forts, c'est-à-dire que les batailles, les moments de négociation, les traités, etc. Et tout. Mais on oublie toutes les couches qui stratifient un petit peu les périodes que l'on vit. Et là, je me suis intéressé à l'art, je me suis intéressé à la religion, c'est vrai, mais je me suis intéressé aussi à la sociologie de l'époque. Qu'est-ce que les gens mangeaient, comment ils vivaient, à quelle heure ils se levaient, quel était leur mobilier, comment ils allaient de Paris à Versailles,
Pour aller de Paris à Versailles, c'était combien de temps à cheval?
À cheval, on pouvait peut-être y arriver en deux heures et demie, mais ils prenaient surtout des diligences, chacun payait un petit billet, et ils allaient en trois heures et demie à Versailles. Et là, c'était intéressant aussi. Et puis, comment les gens s'habillaient, quelle représentation ils avaient. Enfin, moi, ça m'a vraiment ouvert sur l'histoire. On comprend certaines choses après, on comprend le comportement des gens. Vous voyez, par exemple, les imprimeurs, combien on sortait de livres. On a parlé de La Fontaine tout à l'heure. Il avait un éditeur qui s'appelait Barbin, qui était plutôt un imprimeur. Eh bien, quand Barbin, il sortait 300 exemplaires vendus, il était fou de joie.
Ah, c'était pas du tout la même chose. Ouais.
Fou de joie.
En résonance avec aujourd'hui, c'est étonnant. Ouais. Et alors vous avez, on l'a dit, écrit pour le cinéma, la télé, notamment le film Jean de La Fontaine, d'ailleurs, le défi avec Laurent Deutsch.
Les Toretton aussi, il y avait pas mal d'acteurs très intéressants. Il y avait Dreyfus, que j'aimais bien, ouais.
Et alors, ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que vous êtes aussi libre quand vous écrivez un scénario qu'un roman? Oui. Qu'est-ce que l'écriture romanesque vous permet que le scénario vous permet?
Toutes les libertés.
Ouais, c'est ça.
C'est-à-dire que là, il n'y a pas d'argent en jeu, il n'y a pas de casting, il n'y a pas de décor, il n'y a pas de durée obligatoire de 5 semaines ou 6 semaines ou je ne sais pas combien. Donc, le livre, c'est ouvert, quoi. Et puis, si au bout de, je vais dire un mois ou deux, ça ne marche pas, j'arrête, je fais autre chose au cinéma. Quand c'est parti, hein. Comme disaient les producteurs, moi, quand un film se lance en production, je suis au départ du bateau, mais après, je les attends à l'arrivée. Mais ce qui va se passer pendant la traversée, je ne peux rien y faire, hein.
Ouais.
C'est parti.
Tous les deux, finalement, vous êtes des transmetteurs, j'ai envie de dire, des passeurs d'images, de passeurs de mémoire. Est-ce que ça vous va, Jacques Forgès, comme définition?
Oui, oui, parce que j'ai fait des documentaires aussi sur Cocteau et Guy Debord. Et à chaque fois, si vous voulez, il y a un travail de passage des idées des autres et voir comment ils réagissent.
Est-ce que vous considérez un petit peu comme ça aussi, Brigitte? Parce que quand on est comédien, finalement, bah, on passe, on raconte, on est conteur, quoi.
Moi, ce qui me passionne dans ce métier, c'est l'interprétariat, c'est-à-dire d'abord essayer d'aller au fond de la pensée de l'auteur. Donc, autant en avoir des bons, que ce soit des scénaristes ou des auteurs littéraires, et essayer de savoir pourquoi, comment il a écrit ça. Je me souviens que mon prof d'histoire en Hippocagne disait toujours, quand vous lisez un auteur, lisez tout. Et puis il disait aussi, lisez les grands phares, ça vous restera toujours. Mais c'est vrai que pour jouer une scène, il faut vraiment d'abord se pencher sur l'auteur. Pourquoi il l'a écrit comme ça? Qu'est-ce qui l'a intéressé? Etc. Et après, vous allez au personnage. Mais vous êtes d'abord dans l'histoire, dans le sujet, dans le style aussi. Et après, vous allez au personnage. Et là, vous voguez Vous voguez sur cet univers à votre façon, et c'est ça que j'aime, c'est me prêter entièrement à un personnage dans un univers. Je voyage et j'essaye de faire voyager les gens.
Et vous faites voyager, tout à fait. Allez, c'est excellent évidemment, et c'est sur Sud Radio, la comédienne Brigitte Fosset et le romancier Jacques Forjaz vous embarquent ce soir. On se retrouve tout de suite après une petite pause. À tout de suite.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Parlons vrai.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Vous faites bouger les lignes, vous êtes entrepreneur ou souhaitez le devenir, vous êtes sensible à la richesse de nos territoires. Retrouvez chaque mois chez votre marchand de presse le magazine optimiste Eco-Réseau Business. Au menu, des conseils pratiques, des solutions, des portraits d'entrepreneurs inspirants, des entreprises qui font l'actualité et bousculent les codes. Pour 5 euros seulement, osez Eco-Réseau Business, le magazine de tous les entrepreneurs. Eco-Réseau Business, pour entreprendre, innover et positiver.
Sud Radio à Dijon, en DAB+.
Sud Radio.
Sud Radio, c'est excellent. Judith Belair.
Créer du lien, c'est donner du sens. C'est excellent sur Sud Radio. C'est bientôt la fin de l'émission, même si, comme vous, je serais bien restée avec la comédienne Brigitte Fosset, qui est à l'honneur lors du 29e Festival de la Correspondance de Grignan. Ça sera du 30 juin au 5 juillet. Puis l'écrivain Jacques Forjaz et son dernier roman, Les Fantômes de Versailles, c'est sorti chez Albin Michel. Alors, c'est l'heure du portrait chinois avant de retrouver votre chronique. Hein, parlons de vous. C'est parti, vous êtes prêts tous les deux?
Oui. Oui.
Alors, je commence avec vous, Brigitte Fosset. Si vous étiez un personnage de théâtre?
Harlequin.
Pourquoi?
Parce que ça change tout le temps, parce que c'est drôle, même quand c'est grave.
J'adore. Si vous étiez un personnage historique, Jacques Forjaz?
Un personnage historique? Ça serait difficile à trouver un personnage historique.
Ouais. Il y en a pas un qui vous interpelle plus qu'un autre.
Il y en a plusieurs. C'est ça le problème.
Faut choisir.
Après, faut exclure quand on choisit.
Ouais, alors, le choix est une exclusion.
Personnage historique, je dirais pas, Louis XIII.
D'accord. Pourquoi?
Louis XIII, parce que il fait la jonction, entre la Renaissance et ce qu'on va appeler, le monarchique. Et lui, il essaie de garder, un passage intéressant. C'est pas un monarque absolu. C'est quelqu'un qui aime la chasse, qui a des traditions, qui croit aux valeurs, qui est très religieux, mais une religion qui va pas devenir la religion espagnole de son fils plus tard, Louis XIV, qui passera de l'Italie avec la Commedia dell'arte à ses débuts, à l'Espagne après profondément chrétienne.
Mais c'est
quelqu'un de beaucoup plus léger, Louis XIII.
Qu'on a peu de temps, hélas. Merci en tout cas. Brigitte Fosset, si vous étiez une émotion?
L'étonnement.
Pourquoi donc?
Parce que je suis tout le temps étonnée d'être en vie. Je suis surprise d'être là. Je trouve ça magique. J'y pense tout le temps. Je veux dire, quand vous pensez à l'éternité, quand vous pensez au cosmos, vous vous rendez compte qu'on est là ensemble, qu'on s'écoute, qu'on se regarde. Je suis étonnée par les gens, surprise. Et c'est magique de vivre et de partager.
Magnifique. Jacques Forjaz, si vous étiez un secret?
Si j'étais un secret, qu'est-ce que j'aurais secret, c'est ça? Si j'étais un secret...
C'est une question un peu piège, celle-là.
Ouais, un peu... la confession, alors.
D'accord. Vous êtes religieux?
Tout à l'heure, tout à fait au début de l'entretien, on a parlé du sens. Mm. C'est vrai qu'il y a un effondrement du sens aujourd'hui. Et que beaucoup de gens essayent d'en trouver un, c'est-à-dire flécher un peu leur vie. Et il faut dire que le christianisme, en particulier le Christ, si vous voulez, est un personnage absolument lumineux et qui peut conduire des vies intéressantes. Mm. Et j'ouvre juste une parenthèse.
Rapidement,
Je suis des cours aux Bernardins.
Oui. Au collège des Bernardins, donc. Oui,
sur les évangiles, et je dois dire que ça m'apporte beaucoup, même dans les livres.
Bon, alors, vous êtes en confidence, là. On n'est pas en confession, mais presque. Brigitte Fosset, si vous étiez un film culte?
West Side Story.
Yeah. Vous auriez voulu jouer dedans? Ben voilà, ça résume. Si vous étiez un livre, Jacques Forjaz?
Ou alors là, il y a tellement de...
Allez, choisissez.
De gens, j'en suis... Allez, au-dessous du volcan.
Ok. Deux?
Malcolm Lowry.
Il faut dire pour les auditeurs.
2666, âme. Du Chilien Bonello.
Ok. Si vous étiez un acteur, Brigitte Fosset?
Ah, si j'étais un acteur, j'aimerais être Benicio del Toro.
Ah oui, ça, on l'adore. Je valide, je survalide.
C'est un magnifique homme, un magnifique producteur, un magnifique acteur. Mm. Il peut tout jouer. Et Nick Nolte aussi, j'adore Nick Nolte. Mais enfin, c'est quand même Gérard Philippe, mon premier amour.
Bon. Jacques Forgas, si vous pouviez rencontrer Louis XIV, qu'est-ce que vous lui diriez?
Je lui demanderai un pass pour être là tous les soirs.
Et vous, Brigitte Fosset, si vous pouviez rencontrer un personnage de fiction, qui ça serait?
J'aimerais bien rencontrer... Comment s'appelle cette dame extraordinaire?
Alexandra David-Neil.
Voilà, Alexandra David-Neil, oui.
Ah oui. Bon.
J'aurais aimé explorer le Tibet avec Alexandra David-Neil et surtout revenir dans les Alpes et m'installer définitivement.
Allez, et si vous étiez une époque, Jacques Forgas?
En le 17e.
Bon, ben voilà, merci à tous les deux pour cette
merci
belle
beaucoup.
Émission. Vous le savez, on parle vrai sur Sud Radio, alors parlons vrai, parlons de vous. La chronique qui vous raconte, c'est tout de suite.
Sud Radio, parlons de vous, Judith Belair.
Parce que derrière chaque entreprise, il y a une histoire. Parlons de vous sur Sud Radio, on parle vrai avec Maxime Ayache. Maxime Ayache, vous êtes président du groupe Domia, dont vous venez aujourd'hui d'ailleurs nous raconter un peu l'histoire et les valeurs, à savoir comment, de quelle idée est né ce groupe, déjà.
Bonjour Judith, merci. Bonjour. pour vos questions.
Avec plaisir.
Alors, d'abord, c'est une formidable entreprise, un formidable projet qui a été initié maintenant il y a plus d'une trentaine d'années. À l'origine, c'est Academia. Academia, c'est pour accompagner les enfants, les aider à réussir à l'école. Mmh. Et là aussi, on était dans des métiers où tout se faisait de manière par petite annonce, dans les gratuits, ça se faisait un peu par le bouche à oreille. Et puis, il y avait ceux qui étaient un petit peu plus privilégiés, qui avaient l'accès d'être dans les meilleurs établissements, dans les meilleurs lycées, qui avaient accès aux meilleurs professeurs, puisqu'ils étaient forcément dans les meilleurs lycées. Moi, je trouvais ça assez injuste. Mmh. L'idée, c'était de se dire, tous les élèves ont la possibilité, ont le droit de réussir à l'école, il suffit simplement de leur donner un accompagnement. Et c'est comme ça qu'est née Academia, de la volonté de faire un accompagnement scolaire, quelque chose de très sérieux, très structuré, très professionnel, de façon à aider nos enfants à réussir à l'école, à se sentir bien dans leur peau, à exploiter leur potentiel. Et c'est comme ça qu'est né le groupe, je dirais, le groupe Academia et l'enseigne Academia. Alors aujourd'hui, Academia, ce sont à peu près 150 000 élèves qui nous accompagnent et qui font confiance chaque année. Alors que les pédagogies se sont considérablement sophistiqués, on fait des cours particuliers dans nos centres, on organise il y a des écoles, il y a des centres de soutien scolaire dans des établissements, on fait des cours en distance, on a des disciplines comme l'anglais, bon c'est assez classique, mais on fait parfois des cours de codage, on est présent dans le domaine du sport, et en fait on est un groupe présent dans le monde de l'éducation. Et puis, dans cet univers-là, il y a également, on a développé une enseigne qui s'appelle Shiva. Alors, vous allez me dire, quel rapport entre Academia, qui est un...
Le service à la personne, j'ai envie de dire.
Et, exactement. Alors, c'est tout ce qu'on voit pas. Alors, il n'y a rien à voir entre tout ça, sauf ce qu'on voit pas, c'est-à-dire la partie organisation et la partie réglementation. Et c'est à partir de là, ces savoir-faire, qu'on a développé dans un réseau complètement distinct, avec des équipes complètement distinctes, l'activité de Shiva. Et là, sur la partie de Shiva, on est sur autre chose. Toujours le côté très, très qualitatif, très premium, de délivrer des prestations de très grande qualité pour nos clients. Mais cette fois-ci, les intervenants sont des gens qui sont différents de nos professeurs. Nos professeurs sont bac plus 5, bac plus 6, bac plus 7 ou 8. Le personnel de maison, c'est autre chose. C'est des gens qu'on a accompagnés dans la vie professionnelle, qui sont des gens formidables, qu'on a professionnalisés, qu'on a formés et qui font un métier qui est celui de vous aider à vous sentir bien dans votre domicile.
Oui. Et alors, ce qui est intéressant, justement, c'est que vous y redonnez du sens à ce service à domicile. D'ailleurs, c'est une vision qui vous guide en général et qui vous a guidé au moment de la création, j'imagine.
Alors, le sens, dans une activité comme la nôtre, je vais surtout m'apesantir sur la partie Shiva. Mmh. C'est des métiers qui sont dépréciés, des métiers qui sont difficiles, c'est des métiers qui sont compliqués, c'est des métiers de l'ombre. Oui. Et en plus, c'était des métiers qui étaient des métiers, dépréciés, petit boulot, petit job, tout était petit. C'était pas Zola, mais on n'en était pas finalement s'éloigner, c'était une forme de Zola moderne. Et nous avons pris le parti de dire, D'abord, le consommateur, il doit avoir une prestation de qualité. Il doit être en sécurité lorsque des gens viennent chez lui. Il a un devoir d'exigence. Mmh. Mais il a aussi des droits, mais il a des devoirs. Et les devoirs, c'est de pouvoir respecter d'abord les gens qui viennent. Et les gens qui vont venir à son domicile, eh bien, ce sont des gens qui font des métiers, qui sont difficiles, qui sont exigeants. Il faut venir chez vous, il faut tenir compte de vos habitudes, il faut tenir compte de vos besoins. C'est un métier vraiment pas si facile, parce que pour vous, votre maison, c'est votre maison. Ouais. Mais c'est pas la même conception de la maison et de votre intérieur et de votre confort et de votre magie de maison celle qui peut être la mienne, par exemple. Mmh. Et donc, il a fallu recruter, former, animer. Et là, si vous voulez, ce que nous avons fait comme point qui est très important, c'est de les mettre en lumière, d'où les campagnes à recours, de valorisation.
Oui, alors je le dis pour les auditeurs, vous avez fait photographier votre personnel de maison sur des affiches d'ailleurs très très belles, que vous avez placardées partout dans la France, je crois, en tout cas à Paris, moi je les ai vues, avec votre personnel de maison pris en photo par Harcourt.
Exactement, on a voulu leur dire, vous faites un métier formidable, vous méritez le meilleur, parce qu'on va vous sortir, de l'ombre et on va vous mettre en lumière.
Qu'est-ce qui vous rend le plus fier, pardon, je vous coupe, dans cette aventure collective et humaine, Maxime Ayache, du coup ? C'est de valoriser ces individus aussi.
Ce qui rend fier, c'est d'avoir créé d'accompagner de 250 à 300 000 familles qui sont toutes contentes, dans l'immense majorité qui sont extrêmement, extrêmement contente, de sortir de l'ombre des dizaines de milliers de personnes et finalement d'avoir créé une profession. En fait, la satisfaction, c'est de se dire qu'on regarde le parcours effectué, tout ça, c'était des petits boulots, tout ça, c'était de l'ombre, tout ça, c'était du black, tout ça, c'était de l'économie informelle. Et derrière l'extraordinaire réussite du groupe Demia, Academia, Shiva, Nozemé, derrière tout ça, il y a toute une économie qui s'est développée, des confrères qui sont venus faire des métiers comme... Et en fait, on a créé entre guillemets, toute une économie et toute une industrie autour de ces métiers. Et ça, c'est formidable. C'est formidable.
Bravo.
Être entrepreneurial, mais c'est également formidable pour toute notre nation. Et c'est ça qui me rend fier.
Bravo, bravo. C'est excellent, j'ai envie de dire, Maxime Ayache. Bravo.
Merci, c'est
je rappelle.
Il faut nous faire confiance. Pardon, je vous interromps. Laissez-nous travailler. On va continuer à réussir. C'est une fierté française, tout ça, une fierté entrepreneuriale pour beaucoup d'entre nous. Laissez-nous travailler, ne changez pas nos règles, ne perturbez pas notre consommateur. On va vous rapporter, vous, pouvoir public, beaucoup d'argent. Laissez-nous créer nos emplois tranquillement et faites-nous confiance.
On vous a bien entendu. On espère que l'État vous aura entendu en passant aussi, Maxime Ayache. On vous remercie. Je rappelle que vous êtes président du groupe Domia et vous veniez aujourd'hui nous raconter son histoire et vos engagements. Très bonne journée, très bonne fin de soirée plutôt même. À très vite.
Merci Judith.
Merci Maxime.
À bientôt. Au revoir.
Sud Radio, parlons de vous. Judith Belair.
C'était excellent, merci à tous les deux.
Merci à vous.
Merci beaucoup. Merci. Je rappelle aux auditrices, aux auditeurs que la comédienne Brigitte Fossé sera présente pour nous enchanter et vous enchanter lors du 29e Festival de la Correspondance de Grignan. C'est du 30 juin au 5 juillet, vous c'est le 2 juillet à 21h30 et que vous avez tout le programme du festival sur grignan-festivalcorrespondance.com. Le dernier roman, Les Fantômes de Versailles de l'écrivain Jacques Forjas, que je vous recommande fortement, est sorti chez Albin Michel. Et il est dans toutes les librairies de surcroît, n'est-ce pas ? Merci à tous de votre fidélité à cet excellent votre émission sur Sud Radio. Je vous embrasse. On se retrouve samedi à 13h30 prochain pour Parlons Femmes. Bye bye.
Sud Radio.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Parlons vrai.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Dans les années 60, la France construisait un avenir plus ouvert. Révolution musicale, conquête spatiale, émancipation des femmes. En 2025, Renault remet la liberté sur la route avec nouvelle Renault 4. Design emblématique, habitabilité légendaire, désormais 100% électrique et ultra connecté. Découvrez Renault 4 e-tech électrique, borne de recharge offerte. Portes ouvertes du 12 au 16 juin. Valeur borne 990€ hors taxe, hors installation pour forfait borne plus installation. Offre à particulier du 1er au 30 juin. Conditions Renault.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Écoutez Sud Radio Rouen en DAB+.
Sud Radio.
Sud Radio.
J'ai des frères que j'aime et j'adore aussi mon père. Et j'ai un ami mec, un vrai qui parle fort et qui a des pecs. Qui se compare devant le miroir, qui fait le kéké dans les bars. C'est vrai qu'ils me font marrer, leurs petites douleurs, leurs grandes idées. et leurs jambes écartées, comme si on les avait pas remarquées. Assez, et puis leurs sourcils froncés, toujours prêts à se bagarrer,
bagarrer, bagarrer,
et qui s'empêchent de pleurer.
De pleurer.
Je préfère les filles, les femmes, les meufs. Moi je me sens plus tranquille quand y'a des filles dans la taf. Je préfère les filles, les femmes, les meufs. Je me sens mieux dans ma vie depuis que j'ai dit que je préfère les filles, les femmes, les meufs. Moi je me sens plus tranquille quand y'a des filles dans la taf. Moi je préfère les filles, les femmes, les meufs. Je me sens mieux dans ma vie depuis que je l'ai dit que j'aime les filles aussi. Et ouais, j'ai eu des amoureux, mais j'ai jamais trop su les garder. J'avais des doutes un jour sur deux, j'avoue, je les ai toujours quittés. Ils m'écoutaient jamais parler, ils m'entendaient jamais pleurer. Je sais que pour eux c'est compliqué, et ouais, cette foutue virilité, qui tiendra le plus longtemps, qui fera le plus d'argent et qui sera le premier. C'est vrai, parfois j'ai de la peine pour leur petit cœur qui saigne, mais les filles elles saignent aussi. Désolée les gars. Et moi je préfère les filles, les femmes, les meufs. Moi je me sens plus tranquille quand y'a des filles dans la taf. Je préfère les filles, les femmes, les meufs. Je me sens mieux dans ma vie depuis que j'ai dit que je préfère les filles, les femmes, les meufs. Je me sens plus tranquille quand y'a des filles dans la taf. Moi je préfère les filles, les femmes, les meufs. Je me sens mieux dans ma vie depuis que je l'ai dit que j'aime les filles aussi.
Dans un instant, la vie en mieux, question d'éducation.
It's been 24 hours, I need more hours with you. You spent the weekend getting even, ooh. Making things right between us, but now it's all good, babe. Roll out backwood, babe, and let me close. 'Cause girls like you run around with guys like me till sundown. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Girls like you love fun and yeah, me do what I want. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah.
Maybe it's 6:45, maybe I'm barely alive.
Maybe you're taking my shit for the last time, yeah. Maybe I know that I'm drunk. Maybe I know you're the one. Maybe I'm thinking it's better if you drive. Oh, 'cause girls like you run around with guys like me till sundown. When I come through, I need a girl like you, yeah. 'Cause girls like